Chapitre 2. Épigraphe. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Le lundi matin, Édouard Norman, le rédacteur en chef du journal de Raymond, songeait, assis devant son pupitre, au mobile qui allait désormais décider de ses actions. Il s'était engagé de bonne foi à ne se laisser diriger en toute chose que par cette question « Que ferait Jésus ?» Il croyait s'être rendu compte d'emblée de tout ce qui pourrait résulter de cette nouvelle direction donnée à sa vie, mais en cet instant, au moment de reprendre le cours régulier de son activité et de rentrer dans le tourbillon des affaires journalières, il éprouvait une hésitation assez voisine de la peur. Comme il était descendu à son bureau de très bonne heure, il s'y trouvait encore complètement seul et, peu à peu, tandis qu'il considérait sa situation, un désir aussi intense que nouveau s'emparait de lui. Ainsi que tous les membres de la petite compagnie enrôlée au service littéral du Christ, il avait encore à comprendre que l'esprit de vie allait se manifester en lui comme jamais jusqu'ici. Il se leva, ferma sa porte et fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il s'agenouilla devant son pupitre et demanda à être guidé, pas à pas, par la divine sagesse, puis il se releva, résolu à suivre les directions qui lui seraient suggérées au fur et à mesure par les événements de la journée. Maintenant que l'heure était venue de se mettre à l'œuvre, il se disposait à l'accomplir vaillamment, fort de l'appui qu'il venait de solliciter. Il ouvrit sa porte et se remit à sa besogne. Le rédacteur en second venait d'entrer dans la salle voisine, et l'un des reporters faisait déjà courir ses doigts sur le clavier d'une machine à écrire. Lui-même saisit une plume et s'absorba dans l'article du jour, qu'il écrivait toujours en personne. La voix du metteur en page lui fit bientôt lever la tête. « Voilà l'article concernant le concours de lutte d'hier, » disait-il. « Il remplira 3 colonnes et demie, je suppose qu'il peut passer en entier. » Édouard Norman avait coutume de s'occuper lui-même jusque dans les détails de tout ce qui concernait son journal, et on le consultait à propos des moindres articles. Mais souvent, comme dans le cas présent, cette consultation n'était qu'une simple formalité. « Oui, c'est-à-dire, non, montrez-moi cela. » Il prit la copie qu'on lui tendait et la parcourut avec attention, puis il la posa devant lui et réfléchit un instant, les sourcils froncés, le front anxieux. « Non, cela ne passera pas aujourd'hui, » dit-il enfin. Le rédacteur en second, qui écoutait, debout sur le seuil, séparant les deux chambres, crut avoir mal entendu et s'écria « Que voulez-vous dire, ne pas insérer cet article ?»« Oui, c'est bien ce que j'entends, jetez-le au panier. » Mais il regardait son chef comme s'il avait perdu la tête. « Je prétends, Clark, que ce compte-rendu ne doit pas être publié, voilà tout, » répondit Édouard Norman en levant les yeux de dessus son pupitre. Il était rare que ses employés discutassent avec lui son opinion faisant loi. Et il ne changeait que fort rarement sa manière de voir. Cependant, le cas qui se présentait semblait si extraordinaire que Clark ne put s'empêcher d'exprimer sa pensée. « Voulez-vous vraiment dire que le journal ne parlera pas du concours d'hier ?»« Oui, c'est bien ce que je prétends. »« Mais c'est impossible. Songez-y, un concours qui a passionné la ville. Des lutteurs de premier ordre, des paris importants engagés. Que diront nos abonnés ? Ce serait simplement... » Ici, Clark s'arrêta. Il cherchait une expression assez énergique pour caractériser tout ce que cette omission sans précédent aurait d'inouï. Édouard Norman regardait son rédacteur en second d'un air pensif. Clark appartenait à une autre église que lui. Jamais encore ces deux hommes n'avaient abordé ensemble des questions religieuses, quand même ils travaillaient depuis des années au même journal. « Entrez un instant ici, Clark, et fermez la porte derrière vous, » dit Norman au bout d'un instant. Clark obéit et les deux hommes se considérèrent en silence pendant quelques minutes. Enfin, Norman s'écria « Clark, si le Christ éditait un journal, croyez-vous honnêtement qu'il publierait 3 colonnes et demie au sujet d'une fête telle qu'a été celle d'hier ?» Clark fit un geste de stupéfaction, puis il répondit « Non, ne le crois pas. » « Eh bien !» C'est ma seule raison pour ne pas insérer ce compte-rendu. Je me suis engagé à ne faire, pendant une année entière, aucune chose que je considérerais comme opposée à ce que ferait Jésus. Clark n'aurait certainement pas eu l'air plus étonné si son chef était subitement devenu fou. À la vérité, il pensait que quelque chose d'insolite se passait dans son cerveau, car jusqu'alors il lui avait paru toujours posséder un jugement particulièrement sain. « Quel effet cela aura-t-il sur le journal ? » dit-il enfin. « Qu'en pensez-vous ? » demanda Norman. « Je pense que cela le ruinera, ni plus ni moins, » répondit sans hésiter Clark, qui se remettait de son étonnement et se disposait maintenant à tenir tête à son chef. « Il n'est pas possible aujourd'hui, absolument pas possible, de rédiger un journal d'après ce principe. C'est se proposer un idéal beaucoup trop élevé pour être accessible à notre monde. » Lui obéir équivaudrait à se couper les vivres. Vous pouvez être absolument certain qu'en refusant d'insérer ce compte-rendu de fait, vous vous exposez à perdre des centaines d'abonnés. Point n'est besoin d'être prophète pour vous prédire cela. Tout ce qu'il y a de mieux en ville se réjouit de le lire. Chacun s'est intéressé à cette lutte, et la première chose que l'on cherchera en ouvrant son journal, ce sera un article qui en donne les résultats. Vous ne pouvez pas méconnaître à ce point les désirs du public. Si vous le faisiez, ce serait à mon avis une grosse faute. » Edward Norman resta un moment silencieux, puis il dit avec autant de calme que de fermeté. « Clark, quelle est selon vous, sincèrement parlant, la règle véritable qui devrait déterminer notre conduite ? La seule règle juste est-elle celle que Jésus lui-même suivrait ? Affirmeriez-vous que la loi la plus haute, à laquelle un homme puisse obéir, et celle qui consisterait à suivre ses traces, le plus littéralement possible. En d'autres termes, croyez-vous, oui ou non, que nous soyons appelés à suivre l'exemple de Jésus dans notre vie journalière ? » Clark rougit et s'agita pendant un moment sur sa chaise avant de répondre à la question de son chef. Non, c'est-à-dire, oui, je pense que si vous vous placez au point de vue de ce que nous devrions faire, il n'y a pas d'autre règle de conduite pour nous. Reste à savoir si la chose est faisable et si un journal rédigé d'après cette règle pourrait rapporter quelque chose. Pour réussir dans la presse, nous devons nous plier aux coutumes et aux méthodes admises par la société à laquelle nous nous adressons. Nous ne pouvons pas agir comme si nous habitions un monde idéal. Voulez-vous dire que vous ne croyez pas qu'il soit possible de rédiger notre journal dans un esprit strictement chrétien sans nuire à son succès ? Oui, c'est justement ce que je pense. C'est impossible. Ce serait la banqueroute d'ici à 30 jours. Edward Norman ne répondit pas tout de suite. Il était visiblement préoccupé. Nous en reparlerons, Clark, dit-il enfin. Mais il importe que nous soyons dès aujourd'hui au clair l'un vis-à-vis de l'autre. Je me suis engagé à rédiger mon journal pendant une année entière en me demandant toujours que ferait Jésus et en suivant strictement la réponse que me dictera ma conscience. Je crois encore que nous pourrons réussir, cependant, non seulement aussi bien, mais mieux que par le passé. Clark se leva en disant « Alors ce compte-rendu ne paraîtra pas ?»« Non. » « Nous ne manquons pas de copies à mettre à sa place. Vous savez vous-même combien d'articles intéressants nous avons en réserve. » Clark hésitait encore. « Direz-vous quelque chose pour expliquer l'absence de toute mention de cette fête ?»« Non, le journal sera tout bonnement imprimé comme si elle n'avait pas eu lieu. » Clark sortit de la chambre et retourna à son pupitre avec la sensation qu'il aurait eue si le plancher s'était tout à coup dérobé sous ses pieds. Il était à la fois étonné, consterné, excité, en un mot, il enrageait positivement. Le grand respect qu'il éprouvait pour Norman empêchait son indignation croissante et son dégoût de se manifester trop ouvertement, mais il n'en était pas moins de plus en plus consterné du changement qui venait de se produire dans la direction du journal et de plus en plus convaincu qu'il ne pourrait en résulter qu'une ruine complète. Avant midi, tout le personnel du journal savait cette chose incroyable que le numéro du jour allait paraître sans que le fameux concours de lutteurs de la veille y fût seulement mentionné. L'étonnement causé par ce simple fait dépassait toute description, et chacun le discutait à sa façon. À 2 ou 3 reprises durant la journée, M. Norman eut l'occasion de traverser les bureaux et les locaux de l'imprimerie. Chaque fois, les têtes se tournèrent sur son passage et des regards curieux interrogèrent son visage. Il se sentait observé avec une étrange insistance, mais il ne fit aucune observation et resta aussi calme que s'il ne se fût aperçu de rien d'insolite. Il avait modifié sur plusieurs points de détail la composition du journal, mais d'une façon si discrète qu'elle ne frappait personne. Il sentait qu'il avait besoin de temps et d'un considérable effort de jugement pour trancher de la bonne manière la question toujours présente à sa pensée. Ce n'était pas le manque de choses à réformer qui l'empêchait d'agir immédiatement, mais l'incertitude où il était encore au sujet de ce que Jésus aurait fait s'il se trouvait à sa place. Quand le journal de Raymond parut dans la soirée, il causa une véritable stupéfaction à ses abonnés. Le compte rendu de la lutte n'aurait pas produit la centième partie de la sensation due à son omission. Non seulement les abonnés, mais une foule d'acheteurs au numéro ne cherchaient que cela en le dépliant. Et ne le trouvant pas, il courait au kiosque acheter d'autres journaux. Les revendeurs eux-mêmes, qui ne se doutaient point de l'incroyable lacune que rien ne faisait prévoir, criaient de bonne foi « Lisez dans le journal de Raymond le compte-rendu détaillé du grand concours de lutteurs !» Un homme qui venait d'acheter et de parcourir la grande feuille quotidienne, en général si bien renseignée, rappela le garçon qui la lui avait vendue en disant en colère « Il n'y a pas un mot au sujet de la lutte là-dedans. À quoi pensez-vous de vendre de vieux numéros ?»« De vieux numéros? Comment donc? Je sors de l'imprimerie. Regardez la date, donc. » »« N'empêche qu'il n'est pas question de la fête d'hier. Regardez-vous-même. » L'acheteur rendit le journal au jeune garçon. Celui-ci le parcourut d'un seul regard, puis se mit à siffler d'un air consterné. « Sam » appela-t-il en apercevant à quelque distance un autre revendeur. « Laissez-moi regarder un de vos exemplaires du journal de Raymond. » Il n'eut pas de peine à se convaincre que la pile d'exemplaires de son concurrent ne différait en aucune façon de la sienne. « Dépêchez-vous de me vendre notre journal, n'importe lequel, pourvu qu'il me renseigne sur les résultats du concours. » Et le monsieur aussitôt servi s'éloigna, laissant les deux garçons en face l'un de l'autre. « Ils ont eu la berlue au journal, pour sûr, ou on leur a joué un mauvais tour !» s'écria le premier qui se mit à courir dans la direction où se trouvaient les bureaux de la feuille incriminée, afin de s'informer de ce qui s'y était passé. Plusieurs autres revendeurs se pressaient déjà dans la salle où se distribuait le journal. Les réclamations vociférées aux oreilles de l'employé chargé de ce département eussent rendu fou quelqu'un de moins habitué que lui à de bruyantes manifestations. M. Normand, qui se disposait justement à rentrer chez lui, s'arrêta, attiré par ce bourdonnement de voix sur le seuil de la porte, pour s'informer de ce qui se passait. « Ces garçons se plaignent de ce qu'ils ne peuvent vendre les numéros du journal parce que les résultats du concours de lutte ne s'y trouvent pas », répondit l'employé interpellé en regardant son chef d'un air curieux comme l'avait fait au cours de la journée tant d'autres camarades. M. Normand hésita un moment, puis il entra dans la salle et s'adressa aux réclamants. « Combien d'exemplaires avez-vous là ?» leur dit-il. « Faites-en le compte. Ce soir, c'est moi qui les achète. » Ils ne se le firent pas dire deux fois et se mirent à compter fiévreusement les exemplaires non vendus. « Donnez-leur l'argent qu'il leur revient, Georges, » continua le rédacteur, « et s'il vient encore d'autres personnes se plaindre de ce qu'il leur reste des exemplaires, payez-les leur également. » Puis, se tournant vers les garçons présents, il ajouta « Êtes-vous satisfait ?»« Satisfait, cela ne se demande pas, mais continuerez-vous à faire cela? Donnerez-vous chaque soir une représentation comme celle-ci au bénéfice de la fraternité ?» M. Normand se contenta de sourire sans se croire obligé de répondre à cette question. Il quitta ses bureaux et rentra chez lui, et tout en marchant, il ne pouvait se débarrasser de cette question « Jésus aurait-il fait cela ?» Par où il n'entendait pas cette dernière transaction, mais l'ensemble des motifs auxquels il avait obéi pendant toute cette première journée. Les revendeurs du journal avaient eu évidemment à souffrir de la décision qu'il avait prise. Pourquoi auraient-ils perdu leur argent par sa faute? Ils n'étaient pas à blâmer, tandis que lui, un homme riche, pouvait mettre un peu de joie dans leur vie. Quand il atteignit sa demeure, il en était arrivé à la conclusion que Jésus aurait agi comme lui, ou du moins dans le même sens pour n'avoir pas à se reprocher la moindre injustice. Il ne tranchait pas ses questions pour qui que ce soit d'autre, il ne jugeait que sa propre conduite. Il n'était pas en position de dogmatiser et il sentait qu'il ne devait se laisser guider dans son interprétation des actes probables de Jésus que par son jugement et sa conscience à lui. Il avait prévu en quelque mesure une diminution dans la vente du journal, mais il lui restait à réaliser l'étendue des pertes qui le menaçaient pour le cas où il continuerait l'épuration commencée. Il reçut pendant la semaine qui suivit de nombreuses lettres au sujet du numéro incriminé. Quelques-unes d'entre elles ne manquaient pas d'intérêt. « Monsieur, lui écrivait quelqu'un, je suis décidé depuis quelque temps à changer de journal. J'ai besoin d'en recevoir un qui soit à la hauteur des exigences du jour, progressif, entreprenant, répondant en tout point aux demandes du public. Votre récente frasque, par où j'entends votre refus d'insérer le compte-rendu du concours de lutte, a achevé de me décider. Je vous prie donc de discontinuer l'envoi du journal de Raymond. Suivez la signature d'un négociant depuis de longues années abonné au journal. Cher Édouard, à quoi avez-vous songé l'autre jour? Avez-vous cherché peut-être à épater vos abonnés? J'espère que vous ne songez pas à faire passer le char des réformes morales au travers des avenues de la presse. Ce serait une expérience dangereuse à tenter. Croyez-moi, tenez-vous-en aux méthodes modernes que vous avez appliquées jusqu'ici avec tant de succès. Le public veut être renseigné sur les fêtes de Luther et autre chose de ce genre. Donnez-lui ce qu'il réclame et laissez les réformes à d'autres. Tout à vous, ici le nom de l'un de ses plus anciens amis, rédacteur du plus important quotidien d'une ville voisine. Mon cher monsieur Norman, j'ai hâte de vous dire combien j'ai apprécié la façon évidente dont vous avez tenu votre promesse. C'est un début splendide et personne n'en comprend la valeur mieux que moi. Je devine ce qu'il vous en coûtera, bien que je n'en puisse calculer encore tout le montant. Votre pasteur, Henry Maxwell. Une lettre ouverte immédiatement après celle de M. Maxwell lui révéla que l'étendue des pertes subies serait peut-être, en effet, plus considérable qu'il ne le prévoyait. « Monsieur, à l'expiration de mon contrat d'annonce, veuillez ne pas le renouveler ainsi que cela s'est fait jusqu'ici. Inclus un chèque représentant le solde dû encore par ma maison. Je considère donc mon compte avec le journal comme définitivement bouclé. » L'annonce dont il s'agissait était une réclame très apparente et très largement payée par un des plus grands fabricants de la ville. Il ne faisait pas allusion dans sa lettre au numéro du journal qui avait omis de parler du concours, mais Edward Norman ne pouvait s'empêcher de rapprocher les deux faits. Il apprit d'ailleurs plus tard que le fabricant lui avait retiré ses annonces parce qu'il avait appris qu'il allait introduire dans son journal de bizarres réformes qui auraient pour effet certain de réduire le nombre des abonnés. Cette lettre attira l'attention de Norman sur cette question des annonces à laquelle jusqu'alors il n'avait pas songé. Il se mit à parcourir celles qu'il publiait et ne put échapper à la conviction que Jésus se serait refusé à publier plusieurs d'entre elles. Qu'aurait fait Jésus en face de ces longues pancartes où différentes espèces de liqueurs étaient recommandées en phrases pompeuses et des alléchantes annonces de cafés-concerts et de bals publics? Lui-même, en les acceptant, faisait simplement ce que chaque homme d'affaires de Raymond aurait fait à sa place. C'était la principale source de revenus du journal. Celui-ci pourrait-il vivre s'il y renonçait? Là était la question. Mais non, il n'y avait qu'une question. Jésus les insérerait-il? Édouard Norman se le demanda honnêtement, et après avoir prié pour être éclairé et conduit, il appela Clark dans son bureau. Clark entra, persuadé que le journal était à la veille d'une crise et préparé à tout après ses expériences du lundi matin. « Clark, lui dit Norman d'une voix basse, mais assurée, je viens de parcourir nos pages d'annonces et je me suis décidé à en supprimer un certain nombre à mesure que nos contrats arriveront à leur terme. Je les ai marqués au crayon bleu. Veuillez informer l'employé qui s'en occupe qu'il n'aura pas à les renouveler. » Il tendait la feuille à Clark, qui la prit et la considéra d'un air fort soucieux. « Cela va causer une perte énorme au journal, » dit-il enfin. « Combien de temps pensez-vous pouvoir agir de cette façon ?»« Clark, croyez-vous que, si Jésus était le rédacteur et le propriétaire du journal de Raymond, il y insérerait les réclames des liquoristes et des tenanciers de bals publics ?» Clark continuait à regarder son chef avec un étonnement voisin de la stupeur. « Eh bien, non, je suppose que non. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Nous ne pouvons pas agir comme il le ferait. On ne peut pas se baser là-dessus pour la direction d'un journal. »« Pourquoi pas ? » demanda tranquillement Norman. « Pourquoi ? parce que ce serait un moyen infaillible de perdre plus d'argent qu'on en gagnerait. Voilà tout, s'écria Clark en donnant essor à son indignation. Si nous allions diriger le journal de cette façon, nous aboutirions certainement à la banqueroute. Le pensez-vous vraiment ? Demanda Norman, non pas comme s'il attendait une réponse à sa question, mais comme s'il se la posait à lui-même. Après un moment de silence, il reprit « Vous n'en donnerez pas moins l'ordre d'agir dans le sens indiqué tout à l'heure. Je crois que c'est ce que ferait Jésus et je vous répète, Clark, que j'ai promis d'essayer pendant un an d'agir de même sans m'inquiéter de ce qui pourra en résulter. Je ne crois pas qu'aucun raisonnement, si subtil soit-il, nous amène à conclure que Jésus publierait aujourd'hui les annonces des débitants de liqueurs ou des tenanciers de café-concert et d'autres choses de ce genre. Il peut y en avoir encore parmi celles que nous insérons qui sont d'un caractère louche. Je me réserve de les examiner soigneusement. Pour le moment, ma conviction est faite au sujet de celles que je vous ai déjà signalées. » Clark retourna à son pupitre en se disant qu'il venait de se trouver en présence d'un homme bien étrange. Il ne parvenait pas encore à saisir la vraie signification de ce qui se passait, mais il éprouvait une indignation mêlée d'inquiétude. Il en était sûr, pas plus tôt le public serait-il instruit de l'absurde idéal moral d'après lequel l'éditeur du journal prétendait le rédiger, que s'en serait fait de sa prospérité. Qu'adviendrait-il de n'importe quelles affaires dirigées d'après ce principe? Le résultat ne pouvait être qu'un bouleversement complet de toutes les coutumes reçues et une confusion sans issue et sans utilité. C'était pure folie, se disait Clark, et l'employé chargé du service des annonces joignit ses exclamations indignées aux siennes dès qu'il eut connaissance des exigences de leur chef commun. À quoi songeait-il donc? Avait-il perdu la tête? Son but était-il de tuer son journal? Mais Edward Norman ne s'était pas encore trouvé en face du plus sérieux des problèmes qu'il allait devoir résoudre. Quand il arriva à son bureau le vendredi matin, il vit sur son pupitre le programme du journal du dimanche, car le journal de Raymond publiait une édition spéciale paraissant le dimanche matin, et comme il était à peu près le seul à le faire, le succès financier en était fort remarquable. Ce numéro supplémentaire consacrait la valeur d'une ou deux colonnes à des sujets littéraires et religieux, les questions de sport, de théâtre, de mode, les menus cancans de la ville, le reportage de la société accaparaient le reste, et le tout formait un amalgame si intéressant que tous les abonnés, gens d'église et autres, le considéraient comme un des condiments indispensables de leur dimanche. Et tout à coup, Edward Norman se demandait « Que ferait Jésus ?» S'il était rédacteur d'un journal, mettrait-il de propos délibérés entre les mains des chrétiens de Raymond une lecture de ce genre, à l'aube du seul jour de la semaine, qu'ils auraient dû réserver à des choses meilleures et plus saintes? Il connaissait à fond l'argument employé en faveur des journaux du dimanche, savoir que le public en avait besoin, principalement l'ouvrier qui, n'allant pas à l'église, devait avoir quelque chose d'amusant et d'instructif à lire pour son unique jour de repos. Mais à supposer que ce numéro du dimanche ne rapporta rien, que même il fût onéreux, l'éditeur aurait-il mis une égale ardeur à fournir à l'ouvrier la nourriture intellectuelle si impérieusement réclamée? Edward Norman s'interrogeait honnêtement sur ce sujet, et il s'avouait que Jésus aurait débattu cette question sans s'inquiéter de son côté pécuniaire. La vérité, c'est que le journal du dimanche non seulement faisait ses frais, mais encore rapportait des milliers de dollars. En outre, les abonnés avaient payé pour 7 numéros par semaine. Avait-il le moindre droit de leur en livrer moins que ce qu'il s'était engagé à leur fournir? Il était profondément perplexe. Tant de choses dépendaient de ce numéro du dimanche que, pour la première fois, il se refusait presque à se laisser guider par la manière dont Jésus aurait, probablement, agi à sa place. Pourtant, il était le seul propriétaire du journal. La direction ne dépendait que de lui. Il n'avait pas de comité à consulter. Après avoir hésité longuement devant la montagne de copies qui reposait sur son bureau, il se décida à faire appel à ses principaux auxiliaires et à leur exposer franchement la situation. Il fit appeler Clark et les autres hommes employés à la rédaction, les quelques reporters qui se trouvaient là à ce moment, ainsi que le chef de l'imprimerie et quelques-uns des compositeurs, et il les rassembla dans la vaste pièce destinée à la réception des dépêches. Ils arrivaient plus ou moins intrigués par la convocation de cette conférence insolite et s'installaient tant bien que mal sur les tables et les comptoirs qui meublaient la salle. Ils savaient déjà tous que M. Norman était en train de mettre le journal sens dessus dessous et ils le regardaient d'un air curieux. « Je vous ai prié de venir ici pour vous parler de mes plans concernant l'avenir du journal, commença-t-il. Je considère certaines modifications comme nécessaires, bien que je sache que les changements que j'y ai déjà introduits aient été trouvés fort étranges par plusieurs. » Ici, il raconta ce qu'il avait dit à Clark et ils fixèrent sur lui des yeux dans lesquels se lisait un certain malaise. « Maintenant, continua-t-il, j'en suis arrivé, en suivant toujours la ligne que je me suis tracée, à une conclusion qui causera sans doute quelques surprises. J'ai décidé que, à partir de la semaine prochaine, le numéro de dimanche sera discontinué. J'expliquerai dans celui qui paraîtra après-demain les raisons de cette suppression. Afin de ne pas frustrer les abonnés de la somme de matière à laquelle ils ont droit, nous publierons le samedi soir un numéro double, ainsi que le font beaucoup de journaux, qui ne font pas paraître une édition du dimanche. Je suis persuadé que, au point de vue chrétien, notre numéro dominical fait plus de mal que de bien. Je ne crois pas que Jésus en assumerait la responsabilité s'il était aujourd'hui à ma place. Il sera peut-être un peu difficile de faire accepter cette modification par les abonnés et par ceux qui ont recours à la publicité de nos annonces, mais cela me regarde. Et quoi qu'il en soit, c'est chose décidée. Le dommage pécuniaire, pour autant que je puisse le prévoir, ne tombera que sur moi seul. Il n'en résultera pas de changement pour les reporters et les typographes. Édouard Norman se tut et promena son regard tout autour de la chambre. Personne ne disait un mot. Pour la première fois, il fut frappé par le fait que jamais depuis qu'il rédigeait son journal, il n'avait vu ainsi tout son personnel rassemblé autour de lui. Jésus ne ferait-il pas cela? C'est-à-dire, ne réunirait-il pas tous ses employés comme une famille dans laquelle chacun pourrait émettre son opinion et dire son mot sur la meilleure manière de rendre l'œuvre commune conforme à l'idéal qu'il avait en vue? Il entrevit, comme à la lueur d'un éclair, la coopération possible de toutes les forces et les bonnes volontés représentées par les hommes réunis autour de lui. Il ne devait pas oublier cette idée, mais elle recula pour le moment à l'arrière-plan, chassée par les nécessités de l'heure présente. Quand tous ses collaborateurs l'eurent quitté pour retourner chacun à son ouvrage, il reprit lui-même le chemin de son bureau particulier. Clark l'y suivit et une sérieuse discussion s'engagea entre eux. Le rédacteur en second était positivement monté et sa protestation équivalait à peu près à une démission. Norman restait maître de lui. Toute cette scène lui était pénible à l'extrême, mais il sentait plus que jamais la nécessité d'agir comme Christ l'aurait fait. Les services de Clark lui étaient précieux. Il savait qu'il le remplacerait difficilement, mais il ne pouvait pas résoudre la question concernant Jésus en continuant à éditer son numéro du dimanche. « En définitive, s'écria Clark comme conclusion, vous aboutirez à la banqueroute d'ici à 30 jours. Il ne sert de rien de se le dissimuler. » « Je ne partage pas votre crainte, répondit Édouard Norman avec un étrange sourire. Mais je vous demande, Clark, si vous voulez rester au journal jusqu'au jour de la banqueroute. » « Monsieur Norman, je ne vous comprends pas. Vous n'êtes plus l'homme que j'avais connu jusqu'ici. » « Je ne me reconnais pas moi-même, Clark. Quelque chose de remarquable m'a saisi et m'entraîne. Je n'en suis pas moins persuadé du succès final pour le journal. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Voulez-vous rester avec moi ?» Clark hésita un moment, puis finit par dire oui. Son chef lui serra la main et reprit sa place à son pupitre, tandis que lui-même s'en retournait à l'ouvrage, en proie à des émotions de divers genres. Jamais encore il n'avait passé par une semaine aussi troublante. Il se sentait lié désormais à une entreprise qui pouvait s'écrouler d'un instant à l'autre et l'entraîner dans sa ruine, et non seulement lui, mais encore tous ceux qu'elle concernait en une façon quelconque. Encore une fois, l'église d'Henry Maxwell se trouva bondée à l'heure du service, le dimanche matin. Edward Norman, assis à sa place accoutumée tout près de la chaire, attirait tous les regards. Il le sentait, mais il les supportait sans se départir de son calme. La plupart des hommes réunis dans la vaste nef avaient lu déjà le numéro du dimanche du journal et l'article qui annonçait sa suppression prochaine. Il était conçu en termes si élevés qu'il avait frappé chacun. Jamais encore pareille série d'événements extraordinaires n'avait interrompu le cours normal de la vie des habitants de Raymond, car le journal n'avait pas été le seul à se lancer dans des innovations aussi radicales qu'intempestives. Aussi, en attendant le commencement du service, les conversations à voix basse allaient-elles leur train dans les bancs. On parlait des choses étranges inaugurées depuis la semaine écoulée par Alexandre Power dans les ateliers du chemin de fer et par Milton Wright dans ses magasins. Quand Henry Maxwell monta en chaire, l'assistance était encore positivement houleuse. Il la considéra avec une tranquillité qui indiquait une force et une résolution plus qu'usuelles. Elles se manifestèrent dès l'abord dans ses prières. Quant à son sermon, il ne serait pas facile à raconter. Il était ce que devait être le sermon d'un pasteur qui avait passé une semaine entière à se dire « Comment Jésus leur parlerait-il ?» et ne ressemblait pas à ceux qu'Henry Maxwell prêchait autrefois. Le mardi précédent, il avait prononcé auprès de la tombe de l'homme mort dans sa demeure les paroles sacramentelles « Que la poudre retourne à la poudre ». Et il était encore sous une impression trop profonde pour être mesuré pendant qu'il préparait le message qu'il allait apporter à sa congrégation de la part du Christ. Maintenant que le dimanche était venu, que les membres de son troupeau se trouvaient réunis autour de lui, qu'allait-il leur dire de la part du maître? Il savait que son sermon n'approchait pas de l'idéal qu'il aurait voulu atteindre, mais les auditeurs ne s'en dirent pas moins que jamais encore ils n'avaient entendu de pareil. Il y flagellait encore le culte de l'argent et de la mode, deux choses que les membres de la première église ne s'étaient jamais entendus reprocher d'une manière aussi positive. Mais tout cela, enveloppé d'un amour si ardent pour leurs âmes que le sermon en prenait une signification toute spéciale. Quand il fut terminé, beaucoup dirent dans leur cœur « C'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré », et il ne se trompait pas. Puis Rachel Winslow se leva pour chanter. Cette fois, personne n'éprouva le désir de l'applaudir, pas plus que sa remarquable beauté ne nuisit à l'effet de sa voix, ainsi que cela arrivait parfois. On ne la regardait pas, on écoutait avec un recueillement extraordinaire son chant, pénétré d'un sentiment si pur, si puissant, et en même temps si humble, que chacun peu à peu courba la tête dans un sentiment d'adoration. Avant de donner la bénédiction, Henry Maxwell pria ceux qui étaient restés de la semaine dernière et ceux qui seraient disposés à se joindre à eux de se rassembler encore dans la salle de la bibliothèque. Il fut étonné lorsqu'il y entra de la trouver presque remplie. Cette fois, les jeunes gens étaient en majorité et se trouvaient pourtant parmi les nouveaux venus quelques hommes d'affaires et quelques-uns des membres influents de l'église. Comme 8 jours auparavant, Henry Maxwell leur demanda de prier avec lui et, de nouveau, la présence de l'Esprit-Saint se fit sentir au milieu d'eux. Ils savaient d'une façon si certaine que ce qu'ils avaient résolu de faire était conforme à la volonté divine qu'ils ne s'étonnaient pas de la bénédiction spéciale qui descendait sur eux. Ils restèrent assez longtemps à discuter ensemble dans un sentiment de fraternité inconnu jusqu'alors parmi eux, bien qu'ils fussent tous membres de la même église. Chacun était déjà au courant des mesures prises par Edward Norman et tous l'approuvaient. Quel sera le résultat probable de la suppression du journal du dimanche ? Demanda Alexandre Power qui était assis à côté de lui. Je n'en sais rien encore, mais je m'attends à une forte diminution du nombre des abonnés et des annonces. Avez-vous des doutes à ce sujet ? C'est-à-dire, avez-vous quelques regrets ou quelques craintes d'avoir mal interprété la conduite de Jésus ? Demanda Henry Maxwell. Pas le moins du monde, mais pour ma propre satisfaction, je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous pense que Jésus publierait une édition du dimanche. Personne ne parla durant quelques minutes, puis Jasper Chase dit « Il me semble que nous sommes tous d'accord là-dessus ». Mais je vous avoue que plusieurs fois durant la semaine, j'ai été perplexe, car je ne voyais pas du tout ce que je devais faire. C'est une question qui n'est pas toujours aisée de trancher. J'éprouve la même difficulté, dit Virginia Page, qui était assise à côté de Rachel Winslow. Cette déclaration n'étonna aucun de ceux qui la connaissaient, car ils se demandaient comment elle s'y prendrait pour tenir sa promesse. « C'est surtout en ce qui concerne ma fortune que le problème me semble difficile à résoudre, » continua-t-elle. « Jésus n'en a jamais possédé, et rien dans l'exemple qu'il nous a laissé ne me paraît pouvoir me guider dans l'emploi de la mienne. J'étudie la chose, je prie, je crois voir clairement une partie de ce qu'il ferait, mais pas tout. La question que je me pose constamment est celle-ci, que ferait Jésus d'un million de dollars? Je confesse que je n'ai pas encore trouvé de réponse qui me satisfasse. » Je pourrais vous dire à quoi vous pourriez en employer une part, s'écria Rachel en tournant son visage de son côté. Ce n'est pas ce qui m'embarrasse, répondit Virginia avec un sourire. Ce que je cherche à découvrir, c'est un principe posé par Jésus qui puisse me permettre de disposer à l'avenir de mes biens non pas un jour seulement, mais toujours d'une façon aussi conforme que possible à l'usage qu'il en ferait lui-même. Vous y arriverez avec le temps, dit lentement Henry Maxwell. Après quoi Milton Wright se mit à leur parler des expériences qu'il venait de faire durant la semaine. Il était en train d'étudier un plan qui transformerait ses relations avec ses employés. Un monde nouveau s'ouvrait devant lui, et plusieurs des jeunes gens présents le questionnèrent avec un vif intérêt. Ils étaient tous d'accord pour vouloir sérieusement suivre dans les moindres détails de leur vie l'exemple de Jésus, mais plusieurs d'entre eux avouer que cela demandait une connaissance de sa personne et des motifs qui le faisaient agir, qu'il ne possédait pas. Quand la séance fut levée, après une prière silencieuse, les conversations commencées dans la bibliothèque s'y poursuivirent ou continuèrent dans la rue. Rachel Winslow et Virginia Page sortirent ensemble. Edward Norman et Milton Wright causaient avec tant de sérieux qu'ils passèrent deux fois devant la porte du rédacteur sans s'y arrêter. Jasper Chase et le président de la Société d'activité chrétienne discutaient encore dans un coin de la salle. Enfin, ils s'éloignèrent à leur tour, ne laissant derrière eux qu'Alexandre Power et Henry Maxwell. « Je voudrais vous prier de venir demain aux ateliers, » disait le directeur. « Il me semble que personne ne pourrait mieux que vous parler à mes ouvriers et gagner leur confiance. »« Je n'en suis pas aussi sûr que vous. » « Mais j'irai, » répondit Henry Maxwell avec une certaine tristesse. Comment ferait-il pour se trouver en face de ces 200 ou 300 hommes et pour leur adresser la parole? Mais il se reprocha aussitôt sa faiblesse. Il ne s'agissait pas de savoir comment il s'y prendrait. Que ferait Jésus? Cette question coupait court à toute discussion. Il trouva le lendemain Alexandre Power dans son bureau. C'était quelques minutes avant midi et l'inspecteur lui dit « Venez avec moi que je vous montre ce que j'ai essayé d'organiser. » Ils traversèrent les ateliers et montèrent une longue suite d'escaliers pour entrer enfin dans une vaste pièce, utilisée autrefois par la compagnie comme entrepôt à provisions et maintenant inutilisée. « Depuis que j'ai pris l'engagement que vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, » dit le directeur. « Et voici à quoi m'ont conduit, entre autres, mes réflexions. La compagnie m'accorde l'usage de cette salle, et je vais la garnir de table, puis je placerai là-bas, près du chauffage à vapeur, l'installation nécessaire pour faire du thé et du café. J'aurai ainsi un local confortable où mes hommes pourront venir prendre leur repas du milieu du jour et où ils auront le privilège d'entendre parler pendant un quart d'heure, 2 ou 3 fois par semaine, de sujets d'un intérêt tout pratique pour eux. » Monsieur Maxwell eut l'air étonné et demanda si les hommes profiteraient de cette salle. « Oui, ils y viendront, j'en suis certain, car après tout, je crois les connaître. Ils sont parmi les ouvriers les plus intelligents du pays, mais ils échappent pour la plupart à toute influence chrétienne. Je me suis demandé, en songeant à eux, que ferait Jésus ? Et il m'a semblé, entre autres, qu'il commencerait par mettre dans leur vie un peu plus de réconfort physique et spirituel. C'est bien peu de choses que l'ouverture de cette salle, mais j'ai suivi ma première impulsion et j'ai fait la première chose qui se soit présentée à mon bon sens. » « Les hommes seront ici tout à l'heure. Je les ai priés de venir un moment à midi pour que je puisse leur montrer la salle et leur exposer mon plan. Mais je vous prie de bien vouloir leur adresser aussi quelques paroles. » Henry Maxwell aurait eu honte d'avouer combien l'idée de parler à des ouvriers le mettait mal à son aise. Comment pourrait-il parler sans préparation à une si nombreuse compagnie? La perspective d'avoir affaire à ces hommes lui causait une vraie frayeur. temps, il était peu habitué à avoir affaire à un auditoire autre que celui qui se réunissait le dimanche dans son église. La chambre était meublée provisoirement d'une demi-douzaine de longues tables entourées de bancs, et quand le sifflet de midi se fut fait entendre, les ouvriers arrivèrent en foule et s'assirent pour manger les provisions apportées le matin pour leur repas du milieu du jour. Ils étaient bien 300. Ils avaient lu les affiches que l'inspecteur avait mises dans tous les ateliers et ils accouraient poussés en grande partie par la curiosité. La salle était grande, propre, bien aérée et chauffée. Il était facile de voir qu'elle produisait sur eux d'emblée une impression favorable. Au bout d'un moment, Alexandre Power leur expliqua ce qu'il avait en vue pour eux. Il parlait très simplement, comme quelqu'un qui connaît parfaitement ceux à qui il s'adresse. Puis il leur présenta le révérend Henry Maxwell comme son pasteur, en ajoutant qu'il voulait bien leur parler pendant quelques minutes. Henry Maxwell ne devait jamais oublier l'impression que lui causèrent tous ces rudes visages de travailleurs tournés vers lui. Comme des centaines d'autres pasteurs, il ne s'était jamais adressé qu'à des gens de sa classe, c'est-à-dire à des personnes dont l'éducation, les manières, les habitudes lui étaient familières. Il se trouvait maintenant dans un monde nouveau pour lui, et sans sa nouvelle règle de conduite, il n'aurait certainement pas su trouver un message intelligible pour ses auditeurs. Il parla de la vie qui peut satisfaire l'âme humaine, de ses causes et de sa source. Il eut le bon goût de ne pas faire allusion à la différence de classe entre ces hommes et lui, de ne pas employer en parlant d'eux le terme de « travailleur » et de ne pas dire un mot qui parut établir une différence entre leurs existences et la sienne. Tout cela leur plut, c'était facile à voir. Plusieurs d'entre eux vinrent lui tendre la main avant de retourner à l'ouvrage et, de retour chez lui, il déclara à sa femme que jamais poignée de main ne lui avait causé un pareil plaisir. Cette journée marquait un tournant dans sa vie chrétienne, beaucoup plus important qu'il ne s'en doutait. C'était le commencement de relations étroites entre lui et le monde où l'on peine, la première planche jetée sur le gouffre qui séparait à Raymond les églises et les usines. Cet après-midi-là, Alexandre Power retourna à ses affaires fort satisfait des débuts de son entreprise. Les hommes avaient répondu à son appel mieux qu'il ne s'y attendait, et toute la chose promettait de leur être grandement profitable. Ce fut avec une satisfaction sans mélange qu'il reprit la routine de sa besogne journalière. Il était près de 4 heures quand il ouvrit une des longues enveloppes de la compagnie qui devait contenir, à ce qu'il pensait, des ordres relatifs à des achats de provisions. Il parcourut la première page écrite à la machine avant de s'apercevoir que ce qu'il lisait n'était pas destiné à son département, mais aurait dû être adressé au directeur des transports. Il tourna machinalement le feuillet, sans avoir l'intention de prendre plus longuement connaissance d'une lettre qui ne le concernait point, quand ses yeux tombèrent sur une phrase qui prouvait avec toute évidence que la compagnie se livrait à une violation systématique des lois qui règlent aux États-Unis les relations commerciales. Le délit était aussi peu équivoque que celui d'un particulier qui s'introduirait dans une maison pour la dévaliser. Et ce n'était pas seulement les lois du pays, mais encore ses propres statuts que la compagnie violait ainsi de propos délibérés. Il jeta les feuillets qu'il froissait dans sa main, loin de lui, comme s'ils eussent été empoisonnés. Puis immédiatement cette question traversa son esprit « Que ferait Jésus ?» Il chercha à lui imposer silence et à se persuader à lui-même que la chose ne le concernait nullement. Comme la plupart des employés supérieurs de la compagnie, il avait tenu pour avéré jusqu'alors que la direction se conformait aux lois d'une manière générale et que, s'il se produisait dans le service quelques infractions, elles ne pouvaient être que légères et telles qu'il s'en retrouvait sur les autres lignes. Il n'était pas d'ailleurs placé de façon à contrôler ces affaires-là et il ne s'en préoccupait point, jugeant qu'elle ne le concernait point. Mais les papiers qui venaient de tomber entre ses mains, par une étourderie de celui qui en avait écrit l'adresse, lui révélaient des fraudes d'une gravité de toute évidence. S'il voyait un homme entrer dans la maison de son voisin pour le dévaliser, son devoir ne serait-il pas d'avertir la police? Une compagnie de chemin de fer différait-elle donc à ce point d'un simple particulier qu'elle put impunément, grâce à sa puissante organisation, voler le public et défier la loi? Il se répéta « Que ferait Jésus ?» et aussitôt il vit sa famille se dresser devant lui. S'il faisait la moindre démarche pour dénoncer la fraude, il perdrait sa position, il le savait. Sa femme et sa fille tenaient à leur luxe et à leur place dans la société. Avait-il le droit de les en priver ? Sûrement, tout cela ne le regardait pas. Il allait remettre les papiers tels quels à leur véritable adresse et les choses suivraient leur cours habituel. Après tout, qu'en pouvait-il si l'iniquité se pratiquait et si on bravait la loi autour de lui? Il aurait bien assez à faire à développer ses plans concernant le bien-être de ses ouvriers. Que pouvait-il donc faire de plus dans ses entreprises de chemin de fer où tant de choses s'opposaient à ce qu'un homme se conformât absolument à l'idéal chrétien? Mais que ferait Jésus? S'il savait ce que je sais, Alexandre Power avait beau faire. Toujours cette question revenait l'assaillir avec une persistance angoissante. Les heures passèrent, les lumières s'éteignirent dans les ateliers, le bruit des machines cessa pendant un moment, remplacé par celui des pas des ouvriers qui s'éloignaient, puis tout retomba dans le silence. L'inspecteur en chef ne songeait pas à regagner sa demeure. Un des ingénieurs traversa la pièce où il se trouvait et lui dit qu'il avait encore à travailler et qu'il ne sortirait que plus tard. Alors, quand l'immense bâtiment fut vide, si quelqu'un était revenu en arrière, pour jeter un regard dans le bureau de l'inspecteur, il aurait vu une chose extraordinaire. Alexandre Power, à genoux, la tête cachée dans ses mains.